9h, 11h.
François Claus.
Et Julie, on va faire le tour de la question deuxième heure. Mmh. Hein, on va changer d'univers, mais c'est le principe de cette émission. On l'a appris cette semaine, donc le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris a fait son choix sur, comme tous les 4 ans, de nouveaux sports qui sont testés ou qui doivent apparaître dans le palmarès olympique. Alors on a été un petit peu surpris, on attendait des sports très français, la pétanque était candidate notamment, un des sports les plus pratiqués. On verra tout à l'heure que la pétanque, je vois sourire Julie et beaucoup d'auditeurs sourient peut-être, mais c'est un sport, un vrai sport.
Ah oui, j'ai pas dit
le contraire, il suffit de regarder l'équipe qui aujourd'hui a les droits de la pétanque. Maintenant, moi je suis resté moi parfois une heure devant ma télé à regarder une demi-finale Cambodge-Thaïlande, avec des tireurs. Avec c'est absolument passionnant. On en parlera tout à l'heure. On sera avec le président de la Fédération française de pétanque, évidemment très déçu. C'est le surf, le breakdance, l'escalade, le skateboard qui ont été sélectionnés par le comité français avant que le CIO ne se prononce dans quelques mois. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, chers auditeurs? On leur a posé la question ce matin. Le résultat est tombé, Julien.
Alors, oui, favorable à l'introduction de ces sports, oui, à 58%. Mais alors, ça passe pas pour le breakdance. Hein. Le skateboard, le surf et l'escalade, oui. Le breakdance, non, nous dit Cédric. Et puis Johan, pas d'accord pour le breakdance. C'est une danse et pas un sport. On nous dit aussi, les Jeux Olympiques n'ont plus rien d'Olympique. C'est signé André. Et Gaston nous dit, il manque le karaté avec 300 000 licenciés en France, alors que le breakdance en compte 6 000.
Et effectivement, réaction assez légitime. Alors, il est arrivé dans ce studio, non pas avec toutes ses médailles olympiques, mais enfin tous ses dossiers de candidature peut-être auxquels il a participé, 12 au total. C'est la mémoire vivante de l'olympisme en France. Bonjour Armand de Renager.
Bonjour.
Vous avez publié, vous avez reçu d'ailleurs il y a quelques semaines sur Europe 1 pour évoquer Paris 2024. Vous avez écrit le Paris Olympique de 2024, chance ou malédiction, 24 défis à relever. C'est publié chez qui d'ailleurs?
Chez Vigo.
Voilà, chez Vigo. Si nos auditeurs veulent s'y pencher, c'est une encyclopédie passionnante des questions qu'on peut se poser, des réponses qu'on doit apporter à propos de l'organisation des JO à Paris. Armand de Renager, vous avez entendu les réactions, les premières de nos auditeurs. Sport ou pas sport pour le breakdance, qu'est-ce qui a poussé le comité d'organisation de Paris à aller dans cette direction?
Bon, écoutez, il faut être...
Jeunisme
très, oui, il y a du jeunisme, effectivement, mais au-delà du côté, j'allais dire, décalé... Comment se fait-il qu'on s'intéresse à des sports additionnels aujourd'hui, alors qu'on a quelques difficultés à boucler les budgets des Jeux Olympiques? C'est-à-dire qu'on va encore accroître un peu plus. Non, il faut bien reconnaître que depuis Coubertin, si je peux dire, ce problème des sports additionnels, qui était dit à l'époque des sports de démonstration, existe. La question se pose, je dirais, systématiquement tous les 4 ans. Et vous qui parlez de la pétanque, eh bien, la pétanque, le jeu de boules, son ancêtre, entre guillemets, si je peux dire, existait pour les Jeux de 1900 à Paris. Et après, n'aurait plus jamais été réintroduit. Donc depuis 1900, cette question, elle a été posée par Pierre de Coubertin en disant qu'il était indispensable pour un pays, lorsqu'il organise les Jeux Olympiques, de marier une tradition populaire d'activité physique du pays d'accueil avec le sport. Puis il y a eu une confusion qui a été faite. Alors, on a tout vu. On a tout entendu. Alors, si ça vous intéresse,
allez-y.
On est passé de la patrouille militaire dans les sports, pour les sports d'hiver à Chamonix, à Lake Placid, parce que nous sommes des pays, j'allais dire, armés. On est passé à la pelote basque à Paris en 1924, je crois, à Mexico en 1968,
alors,
à Barcelone en 92.
Basque, hein, donc il y a une fédération dans le monde, c'est les Basques.
Les Basques, donc c'est clair. Et il y a eu des sports qui ont été introduits comme sport olympique officiellement. C'est le cas du taekwondo, qui a été démonstration à Séoul en 1988 et 1992, cas de Barcelone, et qui est devenu sport olympique. Puis il y a des sports qui sont devenus olympiques provisoirement, ont été retirés, ont été remis de temps en temps. C'est le cas du baseball, du softball, qui se trouve être réintroduit à Tokyo comme un sport olympique et qui avait été sorti au préalable. Donc, il y a une espèce de jeu. Alors, ce jeu, il faut bien comprendre...
Ce jeu, c'est quoi? C'est du lobbying des fédérations,
non,
des pays?
Non, c'est beaucoup plus important que ça, parce que le CIO se trouve, le Comité international olympique et les organisateurs se trouvent confrontés à un problème vaste qui est celui de la modernisation des Jeux et de l'attractivité des Jeux olympiques au travers de la jeunesse.
il faut des télés qui payent des droits, qui retransmettent des émissions qui sont regardées par
aujourd'hui,
les jeunes.
Aujourd'hui, voilà, il y a une désaffection complète, j'allais dire, des Jeux Olympiques de la part des jeunes. Donc il faut à tout prix attirer. Donc messieurs de Paris, soyez créatifs et inédits, proposez des choses qui soient intéressantes, mais qui respectent un certain nombre de règles bien précises. Et là, en la matière, le breakdance, on a fait une petite révolution, une grosse révolution même. C'est inédit.
C'est un coup de com', mais, peut-être,
mais
à court terme.
Je pense que c'est un coup de com'. Et de toute façon, les décisions finales sont prises par le CIO. Une première fin octobre de 2019 et la dernière ultime fin 2020, où là, on verra si clairement les quatre sports qui sont proposés, qui doivent respecter des règles bien précises, vont être acceptés. Parce que je peux vous dire qu'un certain nombre de fédérations, au-delà de la population, les fédérations qui sont concernées se posent quand même des questions assez importantes de savoir est-ce qu'on peut comparer une médaille d'or de breakdance avec, Kevin Mayer, décathlonien, champion olympique, par exemple.
Vous imaginez le baron de Coubertin en train d'assister dans les Jeux qu'il a recréés à une compétition de breakdance avec des juges, c'est la question qu'on pose. On va faire une courte pause et vous allez, Armand Droninger, nous définir les critères qui sont retenus et cette bataille souterraine des fédérations et sur fond, évidemment, d'argent, puisque l'argent est toujours là, et de rentabilité des Jeux olympiques, Julie.
9h-11h, François Claus sur Europe 1.
On retrouve François Claus et son invité, Armand Droninger, qui est consultant international dans le domaine de l'olympisme et auteur du livre « Le Paris Olympique », le Paris I, sans
oui,
S.
Oui, bon
mais, le Paris Olympique, mais c'est un jeu de mots, c'est ça ? De 2024, « Chance ou malédiction », c'est aux éditions Vigo.
Et puis bien sûr, avec vous, vos témoignages, qu'est-ce que vous en pensez ? Quel sport vous attendez ? Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de l'olympisme au 39-21, bien sûr ? Et on vous promet quelques surprises là, au téléphone dans quelques minutes. Vous évoquiez il y a quelques instants, Armand Droninger, les critères, parce qu'ils sont théoriquement très précis. C'est-à-dire qu'il faut un certain nombre de participants dans le monde qui participent à ce sport-là. Vous pouvez nous
les
détailler ?
Oui, les critères sont très clairs. Ils sont rarement appliqués, mais ils sont très clairs. Le premier, c'est que normalement, le sport que l'on présente en sport additionnel doit être pratiqué par des hommes dans 50 pays sur 3 continents différents. Et par les femmes, dans 35 pays sur 3 continents différents. Je ne suis pas persuadé que le breakdance, ce soit le cas aujourd'hui. Encore que tout le monde n'est pas forcément licencié de breakdance, si on peut dire.
Donc,
il y a un deuxième critère qui est non des moindres, c'est un critère économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Jeux d'été, principalement, ne peuvent pas avoir plus de 10 500 athlètes. Et si on ajoute des athlètes nouveaux, des nouveaux sports, on doit réduire le nombre d'athlètes dans d'autres disciplines sportives olympiques.
Voire supprimer certains sports.
Par exemple, tous les 4 ans, il y a des sports qui sont remis en cause, éventuellement les sports olympiques, mais qui datent depuis Pierre de Coubertin, la lutte, la boxe, l'haltérophilie, pour des raisons à la fois économiques ou des raisons d'image que c'est projeté, compte tenu des scandales qui existent en matière de dopage. Ça, c'est les critères dits économiques ou les critères d'image. Il y a d'autres critères qui sont très importants. Un nouveau sport doit présenter une image, j'allais dire, sportive, doit présenter une popularité assez importante au niveau des jeunes, doit être attractif au plan financier, parce que tout ça répond à une double question, une question politique. Oui ou non, ce sport apporte-t-il, contribue-t-il bien à l'image de l'organisation des Jeux et aux Jeux Olympiques, d'une part, et deuxièmement, est-ce qu'au plan marketing, ça peut rapporter beaucoup d'argent ou pas ?
Car bien sûr, l'un des grands problèmes et ce qui sous-tend tout ce débat autour des nouveaux sports, et vous l'évoquez très bien dans votre livre, Armand Droninger, c'est que les passionnés de Jeux Olympiques vieillissent et que les jeunes s'intéressent de moins en moins aux JO.
Alors, c'est la finalité, l'une des finalités du Comité international olympique et des Jeux Olympiques, reconnu par l'ONU, c'est que le mouvement olympique doit être un acteur clé dans l'éducation des jeunes. Or, les jeunes se désintéressent beaucoup, et en particulier en France, c'est très clair, vis-à-vis des sports, j'allais dire, structurés, organisés. Le tennis est l'exemple typique en France. Vous avez une baisse de l'ordre de 3 à 4% par an de nombre de licenciés dans les clubs de tennis, et il y a de plus en plus de pratiquants de tennis. Il y a de plus en plus de gens en France qui font du sport. Mais il y a plus de 50% des gens qui font des sports hors des structures habituelles et qui existent.
C'est même ce que le football est en train de vivre, sport le plus populaire en France, avec le football en salle, par exemple.
Ouais. Le basketball l'a un peu compris en faisant en sorte que de créer le basketball à 3, qui est un sport, entre guillemets, de rue au départ.
Le rugby à 7 aussi.
Donc tout l'objectif du mouvement olympique, c'est de réintégrer dans la gouvernance sportive traditionnelle tous ces sports de rue qui intéressent les jeunes. Mais les jeunes, pour être codifiés et structurés, il faut que le mouvement olympique accepte un certain nombre de leurs règles.
On est sur un oxymore. On est sur un oxymore. Quand on fait du skateboard ou du breakdance, ben on est libre, on le fait dans la rue.
C'est l'extrême. C'est l'extrême. On va le plus loin possible. Et donc, se pose ici le problème de la sécurité. De la sécurité, ce type de sport. L'intégrité des athlètes. Et puis, la comparaison, est-ce qu'un athlète, un danseur... À Innsbruck, on n'a jamais mis en place pour les Jeux d'hiver la valse de Vienne.
On aurait peut-être aimé de la voir, ça, oui, mais ça n'a pas été le cas. Bon, on rappelle de toute façon que ce n'est pas acquis pour le moment. Non. C'est une proposition qui est de nature à susciter un débat qu'on est en train de mener et que le CIO prendra la décision à partir d'octobre de cette année. Donc, il y a encore un peu de temps pour le débat. Alors, est-ce que le surf, c'est un sport ? Réponse. Oui, oui, forcément. Et nous sommes heureux d'avoir sur Europe 1 une des grandes représentantes du surf en France. Bonjour Justine Dupont.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes où actuellement, du côté du Pays Basque, du côté de La Rochelle?
Je suis à Cabreton au surf, suite à une blessure sur des grosses vagues. Et voilà, donc je suis en pleine rééducation, mais bientôt finie et bientôt prête pour attaquer les compétitions et le circuit, donc plus vidéo.
Et de se préparer à terme pour 2020, puisque le surf est sport de démonstration au Japon. Alors, pour nos auditeurs, vous êtes quand même triple vice-championne du monde de surf, de grosses vagues et longboard. Parce que dans le surf, alors, on va peut-être demander quelques précisions, Justine, il y a plusieurs disciplines dans le surf. Petite vague, grosse vague, petite planche, grande planche.
Exactement, il y a plusieurs types de vagues et types de supports, parce que le surf, à la base, c'est glisser dans l'océan sur une vague. Et voilà, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'océan. Je suis plus passionnée par l'océan que presque par le surf. Et après, voilà, j'adore pouvoir profiter de le plus possible de toutes les formes qu'ils proposent. Donc quand il y a des toutes petites vagues, on s'adapte, on prend une planche qui est un peu plus grande. Quand il y a des très grosses vagues, et bien voilà, pareil, on va s'adapter. Même un jet ski arrive dans le matériel.
Et donc vous êtes très, très dépendant des conditions météo du moment, et ça nécessitera un problème, j'imagine, pour l'organisation des épreuves. Cela dit, il y a l'expérience des championnats du monde, des championnats d'Europe que les JO vont reproduire.
Oui, mais ça fait partie du sport aussi. C'est ça qui est chouette, c'est ce côté avec, de contact avec la nature, et on est obligé de se renseigner, d'apprendre là-dessus. Donc ça, je trouve ça chouette. Et puis après, dans l'eau, pendant les compétitions, c'est aussi un petit côté suspense qui c'est rien n'est acquis, tout peut arriver et l'océan peut changer de forme en peu de temps. Donc c'est ça qui ça rend un petit côté magique.
Et je vous confirme, pour quand on assiste d'une plage au balai des surfeurs sur les vagues, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. La question que je vous pose, peut-être celle des auditeurs, Julie, si vous avez, je vois très, très intéressé, vous allez peut-être souvent au Pays Basque, Julie, mais c'est comment on juge une performance? C'est le style dans lequel on terrasse la vague, on la maîtrise?
Oui, je pense qu'on part sur une vague, et puis après, c'est... on essaie de dessiner les plus belles courbes sur cette vague. Et donc, ça va être la prise de risque sur l'engagement, la vitesse, le style, les manœuvres différentes qu'on va proposer. Et si c'est des manœuvres peu vues, innovantes, ou des manœuvres plus faciles, et bien voilà, on va avoir des notes. Et donc, on est noté sur deux vagues. On peut en prendre plusieurs, dans le droit à des chutes. Mais voilà, on est noté sur ces deux vagues. Et puis après, c'est des... deux meilleurs de la série, ou alors quand on est juste un contre un, c'est la meilleure qui passe au tour d'après. Et voilà.
C'est, oui, c'est par élimination, donc
sur des
duels. Oui, oui, absolument. Ouais, pour le coup, c'est.
Alors, restez... C'est visuel, c'est quand même un spectacle. Donc,
restez bien au téléphone avec nous, même si vous êtes là actuellement en rééducation, quelques minutes, parce qu'on va vous poser des questions, Justine Dupont, sur ce que représentent les Jeux Olympiques pour vous. Armand Renager, rapidement, ça pose une question quand même, c'est celle du jury. On sait que les comités olympiques, les sports qui se jugent avec un jury, ça pose problème.
Alors, le surf, effectivement, c'est un véritable sport passionnant, intéressant. J'en parle en connaissance de cause. C'est vraiment passionnant et ça mérite d'être olympique. Il n'y a aucun problème de ce niveau-là. Et sur le plan économique, alors c'est un sans faute. 24 à Paris, tout au moins dans le sud-ouest de la France, et puis 28 Los Angeles, qui est quand même la Californie, quand même le lieu sacré au niveau du spot, et ainsi de suite. Bon, c'est très clair. Mais se pose un problème majeur, qui est en contradiction complète avec le problème du CIO. Le CIO veut réduire le nombre d'épreuves, le nombre de disciplines, le nombre de sports, où il y a jugement, évaluation avec des notes. On a vu les scandales qui existaient sur le patinage artistique. On le voit aussi, le scandale qui existe au niveau de l'arbitrage dans la boxe. Et au niveau du surf, c'est une véritable évaluation. Mais là, il faudra repenser complètement, sans doute, pour qu'il y ait une véritable légitimité des résultats, les critères d'évaluation et les notes pour un sport comme le surf, qui mérite largement d'être olympique, bien sûr.
On demandera ce qu'en pense Justine dans un instant, puis on lui demandera où est-ce qu'elle voudrait aller conquérir les vagues en France, parce qu'il va y avoir des débats entre différents spots. Allez, j'ai une petite idée, peut-être du côté de chez Igor, on verra.
C'est un débat d'aménagement de territoire, comme on dit toujours.
Allez, courte pause, un peu de musique pour se détendre. Je ne sais pas si on va passer les Beach Boys, mais ça serait génial.
Et c'est pas prévu.
Et on se retrouve.
9h-11h, François Claus sur Europe 1. Europe 1.
Le tour de la question, la suite. Je rappelle le sujet jusqu'à 11h. Les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris 2024 veulent proposer une compétition d'un genre nouveau en retenant ces nouvelles disciplines et en écartant notamment la pétanque. Donc des nouveaux sports aux Jeux Olympiques. Pourquoi ce choix, François?
Et pourquoi ce choix et qu'en pensent nos auditeurs? Et on l'a vu plutôt favorable, hein, 58% sur combien, 6000 appels environ ce matin.
Un peu plus,
Mais beaucoup de réticences sur breakdance quand même qui émanent de notre standard. Avant de retrouver Justine Dupont, notre surfeuse, combien d'athlètes, de médailles, tout ça est codifié. Donc quand on intègre des nouveaux sports, ça veut dire qu'il y a des fédés sur le côté, non. Ça veut dire qu'il y a des réductions de sports. Comment c'est cadré,
Alors c'est cadré, un nombre de médailles X, je ne sais pas le nombre exact, qui fait qu'on ne peut pas distribuer plus de tant de médailles d'or. La particularité par rapport à avant, avec Tokyo, c'est que les sports additionnels sont des sports qui donnent des médailles, alors qu'avant les sports de démonstration ne donnaient pas de médailles. Donc ça fait partie du palmarès, et c'est important pour un pays qui accueille les Jeux de favoriser des disciplines pour lesquelles ils auraient beaucoup de médailles. On peut penser que la France, éventuellement en escalade, et pourquoi pas en breakdance, pourrait avoir des médailles d'or intéressantes.
Et en surf, bien sûr.
Et il faut espérer, en surf, il le faut. Non, donc c'est très codifié. On ne peut pas avoir plus de 10 500 athlètes. On ne peut pas avoir, là c'est très clair, Tokyo aura 480 athlètes plus pour les sports additionnels. Paris, d'accord, vous pouvez mettre des sports additionnels, mais pas plus de 280. Donc il faut réduire la voilure et il faut que ça rentre dans les 10 500. Ça veut dire que des disciplines olympiques traditionnelles devront réduire un nombre d'épreuves sportives pour les donner à ces sports nouveaux.
Donc ça veut dire qu'il va y avoir
une bataille. Alors, c'est une bataille de lobbying. Bon, je ne sais pas si tout à l'heure on aura quelqu'un qui est passionné comme vous, François Claus, de la pétanque.
Mais oui.
Ça va de soi. Mais il est clair que la pétanque, depuis le jeu de boules en 1900, on n'a plus rien eu en ce qui concerne la pétanque de lui. Alors que c'est un jeu qui est pratiqué dans le monde entier, qui répond à tous les critères qu'il faut. Donc il y a un problème sans doute de lobbying intéressant ou d'image de la pétanque.
Pas assez jeune,
je ne sais pas.
Pas assez sportive.
Et c'est assez étonnant de voir qu'effectivement Paris est très révolutionnaire avec le breakdance et avec d'autres épreuves dont on peut parler ultérieurement, mais ne fait pas du tout dans l'inédit en reprenant le surf, le skateboard, et puis l'escalade qui a déjà été préemptée par Tokyo. En ce qui concerne le breakdance, il faut être particulier, nous ne sommes pas les premiers. Pour les Jeux de la jeunesse, nous les avons découverts à Buenos Aires en 2018 pour les Jeux de la jeunesse, où là on s'est dit, bah oui, c'est très spectaculaire, c'est fantastique. C'est vrai que c'est très spectaculaire. Donc essayons en tant que Paris, puisque nous sommes Paris, de les imposer. Mais imposer le breakdance, bonjour la francophonie, bonjour le français. Parce que ça aussi, ça rend ligne de compte. Et là, c'est une autre bataille sémantique qui va se battre là-dessus. Comment on va appeler ça?
On n'imaginait pas, Julie, avec à travers cette bataille pour intégrer des sports au JO, se cacher des questions comme celle-là, d'ordre géopolitique, d'ordre politique ou sociétal.
Coubertin se retourne de sa tombe.
Oui, bien sûr. Mais bon, les Jeux, on évoquait hier, les dérives du football représentent aussi notre monde d'aujourd'hui. Et ça, c'est intéressant de suivre cette évolution. Alors, Justine Dupont, être présente aux Jeux Olympiques, pour vous qui faites des compétitions dans l'Europe, dans le monde, qu'est-ce que ça représente pour vous?
Ça représente un objectif de plus et un gros objectif. C'est vrai que ça chamboule un peu. On se dit, c'est quoi qui va être le plus important? Les Jeux Olympiques, champion du monde. Pour l'instant, ça reste très nouveau. Mais oui, c'est excitant, surtout au niveau même professionnel, parce que du coup, le sport... On sent plus d'engouement de marques différentes aussi.
Oui, ça amène aussi de la richesse dans les sports, oui, vous avez raison.
Exactement, plus de moyens, et donc nous, on peut voilà, mieux s'entraîner, avoir du meilleur matériel, beaucoup plus de suivi, et donc devenir de plus en plus professionnel. Donc le niveau augmente, et le spectacle sera plus beau.
Et le spectacle sera beau, oui, parce qu'il y a cette dimension de spectacle pour la télévision. Moi, j'ai le souvenir à Rio des magnifiques épreuves, notamment d'aviron ou de canoë, avec le pain de sucre en toile de fond au soleil levant là, dans le quartier de Lago. C'était absolument exceptionnel pour le spectacle. Et on peut imaginer avec le surf que les images seront très, très, très fortes. Vous avez une préférence pour le lieu qu'il faudra choisir? Là aussi, il va y avoir des batailles hein, entre Pays Basque, La Rochelle, Bretagne...
Oui, je préfère pas trop m'annoncer là-dessus pour pas faire des ennemis. Mais non, mais la France, on a vraiment une super côte. Donc on entend beaucoup parler des vagues du Pays Basque, des Landes. Mais je pense qu'il va y avoir de plus en plus de candidatures. J'aimerais bien que toutes les régions se mobilisent, qu'il y ait des candidatures de partout pour qu'on puisse vraiment choisir. Et voilà, pourquoi pas la Vendée, la Bretagne, les Dom-Toms aussi. Donc,
Dom-Toms,
qu'on puisse vraiment choisir les plus belles vagues.
Tahiti.
Oui,
ah
ouais. oui. Alors, vous imaginez si on doit délocaliser
la Normandie aussi.
Les surfers. ou la Normandie.
La Méditerranée, l'été, ça va être un peu plus compliqué. Mais l'hiver, il y a des belles vagues.
Mais on se souvient de la bataille qui est entre La Rochelle et Marseille pour accueillir la voile, notamment, épreuve olympique.
Et c'est pas fini.
Importante. Et ce n'est pas fini, nous dit Armand Rodinger. Ben, on vous remercie, Justine Dupont, d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. Bonne chance pour les prochaines compétitions. Et puis, on attend avec impatience le surf à Tokyo pour peut-être le voir entre Pays Basque et Tahiti pour les Jeux de 2024.
Et une médaille d'or.
Et une médaille d'or pour Justine Dupont qui est, rappelons-le, triple vice-championne du monde.
Il est 10h30, nous parlons des nouveaux sports et des épreuves insolites aux Jeux Olympiques. Pour l'instant, rien n'est fait, ce sont des propositions des organisateurs des JO de Paris 2024 d'intégrer le surf, la breakdance, et l'escalade et le skateboard.
Petite question sur l'escalade, comment se déroulent des épreuves d'escalade?
La vitesse à laquelle on monte, je dirais, un certain nombre d'obstacles sur l'escalade elle-même. C'est très codifié.
Très
spectaculaire, et il y a un lien très étroit entre la jeunesse et puis les gens un peu les seniors, si on peut dire, dans ce sport. Donc c'est un sport qui, s'il est peu connu aujourd'hui, mais est assez spectaculaire, autant que le breakdance, si je peux dire, et qui en plus allie toutes les générations et qui a un caractère olympique, ça va de soi.
Alors, quelles sont les épreuves, j'allais dire, historiques qui incarnent, selon vous, le mieux l'olympisme et les Jeux Olympiques? Celles qui perdurent dans le temps? On évoquait la lutte tout à l'heure, c'est peut-être ça qui nous renvoie plus à ce qu'était l'olympisme du début.
L'olympisme au départ, c'est tout l'art physique qui magnifie l'homme dans son action et dans son activité physique. Alors effectivement, la boxe, la lutte étaient sports, je dirais, ancestraux, mais paradoxalement, c'est pas les sports qui sont les plus spectaculaires pour les médias. Donc ça pose un problème.
Pour avoir suivi la boxe aux Jeux Olympiques de Rio, alors c'est vrai qu'il y avait cette dynamique extraordinaire. Absolument. Des Français avec Tony Yoka, et comment c'était suivi par les Brésiliens, et de voir les Cubains qu'on ne voit pas énormément, où il y a une école et où c'est une philosophie de la vie, c'était un spectacle très fort.
Ah, mais c'est un spectacle très très fort, mais qui n'est pas, considéré par un certain nombre d'acteurs du mouvement olympique, car qui considère qu'il y a le jugement de l'homme, et il y a eu tellement d'erreurs d'arbitrage ou la tricherie, que ça pose un problème majeur. Non, le sport majeur, c'est l'athlétisme. C'est pas le football.
D'ailleurs, à Olympie, d'où viennent les Jeux Olympiques,
c'est le marathon.
Il y a juste
la piste elle-même.
La piste, voilà, c'est ça.
Après, on a ajouté d'autres sports au fur et à mesure.
Il y avait pas de JO d'hiver en plus.
Alors, les Jeux d'hiver en 1924.
Mais et puis, c'est posé le problème du professionnalisme des sports par rapport à l'Olympisme, qui a incarné une forme d'amateurisme.
Oui, une forme amateur, mais ça a été abandonné. Ça a été abandonné du temps de Samaranch en 1980. Maintenant, on a fait rentrer les professionnels et l'argent. En masse. On a tellement fait rentrer les professionnels en marche et l'argent que le sport est devenu quelque chose de gigantesque et on ne peut pas aller au-delà de 10 500 athlètes parce qu'on ne peut plus organiser. Donc on est codifié. Mais en plus, on est codifié sur un autre élément. C'est tout le problème de l'évolution de la société en ce qui concerne l'égalité homme-femme. Londres, en 2012, était les premiers jeux où il y avait autant d'hommes que de femmes. Autant de femmes que d'hommes. Et donc, on doit aussi maintenir ça dans les nouveaux sports.
Et on a découvert la boxe féminine en 2014.
En 2014, le judo, pareil, le judo féminin qui arrivait très tard. Donc, on a toute une évolution de la société qui fait qu'on est obligé d'avoir des nouveaux sports tout en maintenant les anciens sports. Et les anciens sports, effectivement, c'est l'athlétisme. Mais ces anciens sports, je dirais aussi, ils posent des sérieux problèmes, des problèmes au niveau de la, j'allais dire, du dopage, de la régularité des compétitions. Donc, le comité international olympique et les organisateurs des Jeux se trouvent confrontés à un problème. Un, il faut être de plus en plus attractif auprès des jeunes, par des nouveaux sports et des sports qui n'aiment pas beaucoup être codifiés complètement. Deuxièmement, il faut avoir les sports anciens tout à fait légitimes, mais qui sont totalement propres. Donc on doit faire une lutte insensée contre tous les fléaux de la société, l'harcèlement sexuel, la violence, le racisme et le dopage, et plus toute la tricherie et la corruption qui existait. Donc, confronté à des vastes défis, et on se pose la question aujourd'hui, attendez, on parle de sport additionnel, alors que, un, on doit juguler à tout prix l'importance des Jeux au niveau des coûts, et pour qu'on ait les recettes qui s'appliquent. En plus, il faut être totalement propre. En plus, il faut faire satisfaire les jeunes pour qu'ils soient attractifs. C'est la quadrature du cercle. Est-ce que la gouvernance aujourd'hui du mouvement olympique a les reins suffisamment solides pour faire cela? Il faut que le COJO l'aide. Sinon, ça va être un fiasco.
Et on voit bien les enjeux qui sont parfois contradictoires, les débats qu'il y a autour. Alors, il y a une grosse déception. On l'évoquait, on attendait tous les Français que la pétanque qui... Depuis quand la pétanque veut être...
La pétanque, c'est dans les cartons depuis toujours, puisqu'en 1900...
Oui, puisque le jeu de boule était là en 1900.
Non, il y a la pétanque qui est très déçue, mais il y a aussi le squash.
Oui.
Qui ne nécessite pas des infrastructures très importantes.
Il y a un problème de sport télévisuel. Ça va tellement vite, on a du mal à voir la balle parfois.
Exactement.
Et ça a été pour le moment un argument contre le squash. Mais
le karaté qui est à Tokyo, que l'on retire pour le compte du breakdance. Alors là, je n'ai pas compris comment c'était.
Et on avait des auditeurs qui réagissaient sur le karaté d'ailleurs tout à l'heure, Julie. Alors nous avons Joseph Cantarelli en ligne. Bonjour Monsieur Cantarelli.
Bonjour Monsieur Clouf.
Vous êtes président de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal. Alors le jeu provençal, c'est la pétanque qui se joue un peu plus long. Le cochonnet en pétanque, c'est de 6 à 10 mètres. Provençal, on va jusqu'à 20 mètres.
C'est de 15 à 20 mètres.
De 15 à 20 mètres. J'imagine pour vous, vous attendiez à tout, sauf à ne pas être sélectionné par Paris, votre pays, pour une candidature validée par le CIO, Joseph Cantarelli.
Oui, nous avions une ambition olympique. Et pour gagner, eh bien, il faut prendre le risque de perdre. Et nous avons perdu puisque nous n'avons pas été retenus. Ben, ce n'est pas un déshonneur, hein. Il faut surtout savoir perdre. Donc, je ne vais pas commenter, j'ai entendu les propos précédents, je ne vais pas commenter sur les autres disciplines qui ont été choisies parce que ce sont des collègues et des pratiques sportives que nous apprécions. Nous les félicitons et leur souhaitons bonne chance.
Armand Redinger disait que le lobbying ou ce que vous avez fait pour essayer d'intégrer ce cercle finalement quand même assez fermé des sports olympiques n'a peut-être pas été mené comme il convenait.
La candidature était portée par le Comité mondial des sports de boules, présidé par Claude Azéma, cette organisation comprend la pétanque, la boule lyonnaise et la rafa volo. Donc c'était une candidature commune. Nous avions un dossier en béton, puisque nous répondions à tous les critères qui étaient émis quant au nombre d'athlètes, quant au coût des installations, quant à la médiatisation, etc. Je peux citer des exemples. Nous proposions une doublette mixte, hommes et femmes. Chacun des deux faisait le tir de précision, qui est très spectaculaire.
Alors le tir de précision, on le rappelle, c'est uniquement une épreuve de tir, où on tire à partir de 6 mètres, 8 mètres, 10 mètres,
oui.
Et on voit l'extraordinaire performance des tireurs qui font exploser une boule à 10 mètres.
Exactement, qui est très spectaculaire. Et pour les points de vue des installations, nous ne nécessitions pas d'installations spécifiques. Un terrain de base, la pétanque se joue partout, il suffisait de mettre des tribunes autour, et n'est-ce pas, et en démonter les tribunes après les Jeux.
On aurait même pu le faire sous la Tour Eiffel. Ça aurait été une
image
exceptionnelle.
Mais on pouvait le faire sous la Tour Eiffel, exceptionnel. On pouvait le faire à Marseille ou ailleurs. À Marseille, nous avons notre siège. Permettez-moi de rappeler à nos auditeurs qui nous sommes. Nous sommes quand même une fédération de 300 000 licenciés, 6 000 clubs, 105 départements, les 13 régions administratives, 400 écoles de pétanque. Nous travaillons avec toutes les fédérations sportives dans le monde scolaire.
Et Joseph Cottarelli, c'est un sport qui se joue ailleurs qu'en France, parce qu'il y a cette image, la pétanque, c'est tellement français. Bah, c'est vrai qu'on voit les étrangers nous photographier quand on joue aux boules sur une place provençale ou ailleurs en France, parce qu'on joue beaucoup aussi en Bretagne, dans le Nord, mais on joue à la pétanque au Cambodge, on joue à la pétanque en Chine, à Madagascar, dans beaucoup de pays, en Afrique.
Voilà. Je voulais toucher le point sensible. Nous sommes quand même le pays qui a créé la pétanque, qui a inventé la pétanque, et nous l'avons mondialisée. Donc aussi, de par le fait, dans le dossier, nous avions plus de 170 nations internationales affiliées et concernées, des millions de pratiquants, et un fort potentiel télévisuel, puisque j'ai entendu vos propos. Je vous rappelle pas la médiatisation que nous avons en ce moment, Point de vue télévision, sur la chaîne L'Équipe,
on peut leur dire, oui, les chaînes L'Équipe retransmet les compétitions de pétanque maintenant, oui.
Qui fait des audiences très bonnes, et au point que les rediffusions font les mêmes audiences que la première diffusion. Donc, de ce point de vue-là, nous étions très très bien placés sur ces critères-là. Évidemment, ça fait partie du dossier embêtant dont je parlais.
Alors, ce dossier embêtant, il n'a pas été validé. Il n'y a pas eu un carreau plein fer sur sur la pétanque pour les Jeux Olympiques de Paris. Restez bien avec nous, Monsieur Cantarelli. Armand Dredinger va vouloir commenter. Puis, il y en a des auditeurs qui réagissent sur la pétanque. On attend Juliette, notamment, au standard. Restez bien avec nous.
9h-11h, François Claus sur Europe 1.
Surf, breakdance, escalade, skateboard pourraient être les nouveaux sports des JO de Paris 2024, sauf la pétanque, François.
Ben oui, la pétanque qui a été exclue de cette course. Nous sommes avec Joseph Cantarelli, le président de la Fédération française, et on essaie de décrypter qu'est-ce qui a présidé à cet échec pour un succès qui semblait assez évident. Et ça réagit du côté du standard, là, au 39-21. Bonjour Juliette.
Bonjour François Claus et à toute l'équipe d'Europe 1.
Eh bien, écoutez, on vous remercie. L'antenne est à vous.
Voilà, bah écoutez, je tenais à vous appeler parce que je trouve regrettable, désolant, de ne pas mettre ce sport dans les Jeux Olympiques. Parce que je considère que, bon, ce qui était quelquefois, pour les amateurs, un jeu de plage, entre guillemets, c'est vrai que les gens jouent de plus en plus. Je fais moi-même partie d'un club où je joue régulièrement.
Vous jouez où? Vous nous appelez, je vois, de Paris, là. Vous êtes membre d'un club à Paris, Juliette?
Je suis membre d'un club à Paris, oui. D'un club à Paris.
Et vous jouez à quel rythme? Par exemple, vous jouez plusieurs fois par semaine?
Il m'arrive de jouer presque tous les jours, les après-midi, puisque notre club est ouvert les après-midi. Et j'y vais 3-4 fois par semaine, voire 5 quelquefois.
C'est indiscret de vous demander votre âge, Juliette?
80.
Bravo, bravo. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, une partie de pétanque, ça peut être fatigant en termes de concentration, en termes de... Bah, on porte 3 boules de 700 grammes quand même dans les mains.
Oui, ça peut être entre 500, 600, 700. Moi, mes boules font 750 grammes.
Ah oui, des lourdes alors.
Oui, lourdes, j'ai toujours joué avec ça.
Et vous êtes pointeuse ou tireuse, ou vous jouez au milieu?
Alors, c'est pas prétentieux, mais j'arrive à faire les deux.
Ouais, bravo, bravo. Donc vous êtes dans les triplettes, l'élément important, celui qui peut tirer et pointer.
Je tire et je pointe, mais je tire à la rabat, ce qu'on dit, je tire pas au fer.
Ah d'accord, là il y a un vrai débat. Voilà.
Mais écoutez, les femmes, il y en a très peu qui tirent, enfin parmi les amateurs comme moi, il y en a peu qui tirent vraiment bien au fer. Mais bon, je me débrouille. C'est plus que se débrouiller, parce que comme je vous disais, je jouais d'une façon régulière depuis une dizaine d'années. Et on est de plus en plus dans notre club, et je vois partout maintenant les gens jouer et s'intéresser à ce sport. Il n'y a qu'à voir le nombre de téléspectateurs.
Il y a une boboïsation, on va dire, du phénomène. Là, on voit le long à Paris des quais de Valmy, dans le 19e, là, vers Stalingrad, de plus en plus les week-ends. Des gens qui jouent au bois de Boulogne. Juliette, j'imagine que vous avez été très déçue quand vous avez vu que votre sport n'allait pas avoir honneurs olympiques à Paris.
Ah oui, mais c'est ce que je vous disais, c'est pour ça que je me suis permis de vous appeler, parce que vraiment, je sursautais en pensant que ça n'était pas accepté, et j'espère qu'on reviendra peut-être là-dessus, parce que c'est un petit peu regrettable que ça ne fasse pas partie. C'est un sport, pour moi c'est un sport. On marche, c'est une détente.
C'est de l'adresse, de la concentration. Il y a des scénarios de suspense extraordinaires parce qu'on peut mener 12-5 et puis perdre 13-12 finalement à la fin.
Écoutez, ça m'est arrivé dimanche. Hein,
voilà.
D'être mené 12-3 et enfin on jouait en triplette, on était mené 12-3 et finalement on a réussi à gagner 13-12.
Ah, et ça, ces remontadas là sont formidables. Merci Juliette de votre témoignage.
Voilà. Bien sûr, merci.
Formidable. À très bientôt, peut-être sur l'antenne d'Europe 1 ou peut-être sur un terrain de boules, on ne sait jamais.
Eh bien, écoutez, avec grand plaisir.
Joseph Cantarelli, voilà, on est au cœur de peut-être du problème aussi. J'ai demandé à Juliette quel âge elle avait. Est-ce que vous pensez que la pétanque n'est pas suffisamment jeune pour le Comité olympique de Paris, ce qui serait une erreur?
Eh bien, justement, je viens d'entendre Juliette et j'apprécie ses propos. Elle est le symbole de ce que nous sommes. Nous portons toutes les valeurs du sport, toutes sans exception. Nous sommes une discipline qui permet l'intergénérationnel, qui permet de jouer toute une vie. On peut commencer très jeune et jouer à un âge très avancé. Et en pratiquant, on fait du bien à sa santé. Donc, notre sport, qui porte toutes ces valeurs, qui correspondent tout à fait aux valeurs de l'olympisme, c'est ce qui ajoute à notre déception. Parce que, à mon avis, les décideurs se sont tirés une balle dans le pied.
Ou une boule.
Ne pas mettre une telle discipline qu'elle a créée, ne pas la mettre à Paris sur ses terres, c'est se tirer une balle dans le pied.
Ben oui,
quel autre pays que nous, que le nôtre, imaginez les Asiatiques ne pas mettre le judo, le karaté aux Jeux Olympiques. Quitte à ce que le karaté a entendu la mauvaise nouvelle de ne pas y mettre la session suivante.
Oui, absolument. Joseph Cantarelli, je vais être obligé de vous couper parce qu'on a des obligations publicitaires. On a compris évidemment votre déception. Merci de l'avoir exprimé sur Europe 1 ce matin. Et puis, bon vent malgré tout à la pétanque et à cette fédération très vivace. Armand Redinger voulait faire un petit commentaire, mais on va attendre un peu. Vous avez un commentaire à faire intéressant là-dessus. On fait une courte pause, Julie. On revient pour aller à la pétanque, on dirait la dernière mène de notre tour de la question sur les sports olympiques.
Et on enchaîne, François
Clos.
On
essaie de faire le tour de la question sur
les Jeux olympiques et les nouveaux sports. Voilà.
Puisqu'on a appris, dans la semaine donc, le choix qui a été fait par le comité d'organisation de Paris, qui devra être validé au mois d'octobre par le CIO, avec ces nouveaux sports que Paris propose. Et tous ne sont pas nouveaux, comme on le disait à l'instant, puisqu'on va les voir à Tokyo, skateboard, surf, escalade. Et le nouveau, c'était breakdance, qui pose, on l'a vu avec nos auditeurs, des questions, même si c'est très spectaculaire que d'assister. J'osais même pas dire une compétition, un spectacle de breakdance, on a envie de dire plutôt, ou de voir cette performance, la mesurer sportivement, ça va être un des enjeux. Nous étions avec une surfeuse, évidemment heureuse de voir son sport qui va être vu par le monde entier. Avec la Fédération française de pétanque, très légitimement déçue de ne pas avoir eu l'ouverture du côté de Paris. Toute l'histoire de l'Olympisme, Armand Redinger, est marquée par des sports qui sont arrivés. Alors, il y a des histoires absolument étonnantes que j'ai découvertes. Le tir au pigeon vivant, ça, c'est une épreuve olympique.
Oui, c'était une épreuve de démonstration olympique.
Si on le fait.
Oui, c'était comme la course des chiens de traîneau, comme la savate, comme la patrouille militaire. Oui. Vous avez aux Jeux de 1924 à Chamonix, de 1928 à Saint-Maurice, 1932 à Lake Placid. C'est absolument incroyable, la patrouille militaire. Et c'est normal, puisque nous sommes des pays militaires. L'Allemagne,
c'était
la France.
Quoi l'épreuve? C'était la patrouille qui volait plus vite.
Qui faisait tout un parcours dans un certain temps, avec tir à l'appui, et qui faisait non pas remporter des médailles, mais qui faisait partie du programme des Jeux Olympiques.
Des Jeux Olympiques, ouais. Et le tir au pigeon vivant, vous imaginez aujourd'hui si on tire sur des animaux vivants dans le monde dans lequel on est.
Alors, le problème des animaux au sport, c'est un problème très très important. Est-ce que, à la limite, les chiens pour aveugles ne pourraient pas compétiter? On se pose la question. Mais avoir des animaux au jeu pose quand même des problèmes majeurs. Rappelez-vous, par exemple, pour les Jeux de Melbourne, les chevaux, l'équitation, l'épreuve d'équitation a lieu à Stockholm. parce que ils étaient, les chevaux étaient en quarantaine pour aller à Melbourne, c'est pas possible. Donc dès qu'on met des animaux quelque part, ça pose un problème d'environnement.
Mais je me permets de revenir. Après la compétition d'équitation, quand on en vit une en direct, c'est très très spectaculaire.
Ah mais oui. Le sport peut être un spectacle extraordinaire. Toute la question qui se pose, notamment pour le breakdance, est-ce que c'est un sport ? C'est un spectacle fantastique, mais est-ce que c'est un sport ou pas ? Je me permets de revenir un peu pour la pétanque en tant que chauvin. Bon, je suis alsacien, on ne joue pas la pétanque en Alsace.
Mais oui, ça... mais enfin, on joue à peu près partout en France, parce que Joseph Cantarelli était en Lorraine, il était quasiment à la frontière du Luxembourg, et on joue énormément en Moselle.
Alors la pétanque répondait à tous les critères olympiques pour être un sport de démonstration ou additionnel olympique. Ils ne l'ont pas fait. Et je vous posais la question au départ, il n'a pas répondu, c'est normal en tant que président, c'est une question de lobbying. Oui, c'est une question de lobbying politique. Est-ce qu'il a été bien fait, mal fait, je n'en sais rien. Mais il est clair que ce sport, qui répond à tous les critères d'universalité, d'attractivité, de mélange des genres, d'universalité, est un sport qui peut avoir un caractère olympique. Donc je leur demande de militer sur deux sports qui n'ont jamais été olympiques, mais qui ont été sports de démonstration. Le glima, personne ne le connaît.
Le glima,
c'est un sport. Qui était un sport de démonstration aux Jeux de 1912, qui étaient les Jeux de, je crois, de Stockholm. De 1912, c'était un jeu de lutte, si je peux dire, scandinave, d'origine des Vikings. Elle a lieu qu'une seule fois, mais c'était un sport de la tradition populaire des pays scandinaves. Et puis je vais plus loin, tous les Jeux de démonstration, tous les sports de démonstration ou les sports additionnels ont été abandonnés en 1996 à cause du gigantisme, on n'avait pas le temps de s'en occuper, ça coûtait cher. Sauf les Chinois. Pékin, en 2008, a introduit un sport de démonstration qui s'appelle le wushu.
Le wushu.
Le wushu, une fédération excessivement active. Le wushu,
c'est un sport martial,
un art martial chinois qui a été créé du temps de Mao Tse-tung, de Longue Marche, et qui a vu le jour pendant une exposition médiatique en 2008, et après il a été abandonné. Mais ils ont été au moins une fois, et la pétanque n'a jamais pu y être. Et bien, militer, comment on fait la fédération, les Chinois et les Scandinaves, pour que leur sport de tradition populaire soit olympique.
Parce que c'est une des vocations de l'Olympisme, peut-être que de découvrir justement au moins une fois ces nouveaux sports et de s'y intéresser.
C'est le mélange de la culture
et du sport. Et de ce qu'ils disent d'un pays aussi, puisque le sport est une forme de miroir. J'aurais voulu terminer juste par un mot, mais on arrive à la fin. Il y aura, et on en reparlera, une innovation formidable, en revanche, là, du côté de Paris. On pourra, nous, spectateurs, courir un marathon. Ça va poser des problèmes de sécurité, mais pendant l'épreuve qui est l'essence même du mouvement olympique, le marathon.
C'était une création remarquable de la part du COJO, qui est proposée au CIO. J'espère qu'elle va être acceptée, cette épreuve de cette manière. Ceci étant, ça va poser des vastes problèmes de sécurité.
Courir avec les athlètes.
Non, on va courir avant ou après.
Sur le même parcours.
Sur le même parcours, exactement. Puis il y a une autre innovation qui est assez intéressante, parce qu'elle va prendre un essor énorme avec les Jeux de Los Angeles en 2028. C'est ce qu'on appelle les sports un peu dits « digitaux ». C'est-à-dire que vous allez pouvoir simuler de chez vous la voile, le sport.
Non,
et donc, vous allez arriver, et dont le e-sport. Et là, on n'en sort pas, et vous allez voir.
On commence à mettre le doigt là-dessus. Merci Armand Dronninger.
C'est moi qui vous remercie.
Formidable tour de la question avec vous. Et je renvoie à votre ouvrage, Paris 2024. Comment gagner ce pari de 2024 aux éditions Vigo. Merci aux auditeurs, merci à Julie et à demain.
À demain, c'était François Clos.